Bonjour. Ça va, vous allez bien? Vous êtes bien assis? Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ça va venir. J'ai passé 3 ans de ma vie à Besançon. Ça ne vient toujours pas. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans le milieu associatif étudiant, mais chrétien. Donc j'avais une association étudiante chrétienne. On faisait des choses sur le campus avec les étudiants, et notamment, on faisait découvrir la foi chrétienne aux étudiants du campus. Et quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, je ne m'y attendais pas à ce point-là, c'est que la Bible intéresse. La Bible intéresse. Il y avait un intérêt franchement impressionnant de la part des étudiants, n'importe quel étudiant sur le campus, sur ce que c'est la Bible. À partir du moment où la Bible est abordée d'une manière objective. En fait, les Français, on a des préjugés religieux qui nous bloquent. Notre société, je veux dire. Et à partir du moment où ces préjugés sautent, la Bible est super intéressante, en fait. Ce matin, sola scriptura. On va essayer de dégrossir un peu le thème. C'est très, très vaste, donc ça va être très rapide et on va survoler de très haut. On va essayer de le faire de cette manière, d'essayer de prendre du recul, un recul objectif. La Bible, on peut faire beaucoup de débats dessus, surtout dans le monde étudiant. On demande que ça. Les étudiants découvrent le monde et remettons en question. Donc on discute de tout, et notamment de la Bible et de la foi. Et sur la Bible, on peut discuter mais de plein, plein de choses. On peut passer notre journée entière, on est encore là minuit si on veut discuter sur toutes les subtilités de la Bible. Tout le monde va être d'accord sur la Bible sur deux choses. La première, non, personne. La Bible parle d'un créateur. Et la deuxième, c'est que la Bible parle d'une créature. Et donc d'une relation entre les deux. Un créateur façonne une créature à son image, qui lui ressemble. Et tout de suite commence une relation. Le créateur explique, voilà, j'aimerais que tu me ressembles, que tu sois à mon image, que tu reflètes mes qualités et que tu te répandes sur cette planète que j'ai créée, que tu remplisses la terre de mes qualités. Et l'aspect pédagogique continue. Le créateur va lui montrer un arbre. Ah, il y a un arbre interdit. Profite de tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre interdit. Si tu en manges, tu meurs. Et la petite créature demande, mais alors pourquoi ce fruit interdit? Et le créateur répond, je t'aime, je veux une relation d'amour. Et l'amour sans liberté, ça n'existe pas. Voilà pourquoi cet arbre, c'est une porte de sortie. Et la petite créature répond, mais je t'aime moi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes vraiment, montre-le-moi avec cet arbre. On connaît la suite de l'histoire. Adam et Ève. Donc, ils croquent le fruit. Et là, il se passe quelque chose de douloureux et de solennel. Adam et Ève sont chassés loin de la présence de Dieu. Un vide se crée dans le cœur de cette créature. Il y a de la souffrance, voilà, la créature s'en va, seule, dans le désespoir, dans l'obscurité, toujours avec son problème dans son cœur, un trou avec une certaine forme qui va se préciser petit à petit. Et les générations passent, Genèse 4, 5, toujours le même problème, l'être humain s'enfonce de plus en plus dans le désespoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire totalement l'inverse de ce pourquoi il a été créé. Il a été créé, je le rappelle, pour remplir la terre des qualités de Dieu. Et Genèse 6, le tableau qui est dressé, c'est que ses pensées étaient tout le temps orientées vers le mal. Exactement l'inverse de ce pourquoi il avait été créé. Créé pour un but, rater le but. Rater le but, le mot en hébreu, c'est péché. Le péché. Le texte continue, la créature est seule dans l'obscurité, mais là, des lueurs d'espoir qui commencent à venir. D'abord avec Noé, ensuite avec Abraham. Le Créateur donne une promesse complètement imméritée. La seule chose que la créature méritait, c'était la mort. La promesse du bien pour toute l'humanité. Et la personne d'Abraham avait ce choix. Est-ce que tu crois ? Et le Créateur apprend à ce moment-là la notion de foi. Si tu crois, eh bien avance dans cette direction. Une direction avec une certaine forme. La petite créature a compris que ça correspondait à son vide. Et la Bible continue. Le deuxième livre de la Bible, l'Exode, raconte comment Dieu a donné à sa créature, un peu comme ces petites boules bleues, la loi. La loi pour essayer de renouer une relation, pour essayer d'avoir un contact entre un Dieu parfait et une créature pécheresse, corrompue. C'est l'histoire donc avec Moïse sur le Sinaï. Dieu propose cette loi et demande « Est-ce que vous voulez vous engager à l'observer ?» Et l'être humain s'engage solennellement avec Moïse. Et puis Josué, sous Josué aussi, il s'engage à fond, à fond. Donc le Pentateuque, ensuite les livres historiques. Vous avez d'abord les juges, où c'est l'histoire, voilà, c'est l'histoire d'un peuple, hein, c'est devenu un peuple. Ils sont là avec leur petite boule bleue, avec cette loi, à essayer de combler leur vide. Dans le livre des juges, c'était l'anarchie totale, il y a des hauts, des bas, et ça continue sur le livre des rois, et vous avez comme ça un millénaire entier, où un cycle se répète d'obéissance, rejet, désobéissance, regret, obéissance, rejet, désobéissance, pendant 1000 ans. Pendant ces années, la créature essaye de vivre cette loi pour laquelle elle s'était engagée, de former petit à petit cette forme qui va essayer de combler son vide. Mais ça se finit par une faillite. D'abord le royaume du Nord, le royaume du Sud, déporté. Il y a, à la fin de l'Ancien Testament, les livres qu'on appelle poétiques, où c'est la créature qui s'adresse au Créateur et qui exprime ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Parfois le regret, parfois la frustration, et ce désir de maintenir cette relation avec le Créateur. Et il y a aussi les livres prophétiques, où c'est le Créateur qui parle à la créature. Et c'est pareil, il exprime cette douleur de voir son amour bafoué, cette créature qui n'en fait qu'à sa tête. Et juste après, parfois sans transition dans les mêmes textes, eh ben la promesse toujours, cette lueur d'espoir, ce petit panneau, il y aura un jour une solution. Et les années passent et le peuple hébreu commence à former, enfin revient, je vous passe les détails, en Palestine, former à nouveau un peuple, et ils ont ces textes, ils formalisent un peu les idées, les concepts, etc. Ils voient que dans ces textes, des écrits prophétiques qui parlent d'un avenir meilleur, il y a souvent une personne qui est associée, et ils associent donc la personne d'un Messie à cette solution. Et puis un jour, Jésus débarque, il commence à faire parler de lui, et on commence à le reconnaître comme étant éventuellement, certainement, le Messie. À son époque-là, les Juifs ont formé donc une espèce de religion, la religion juive, qui avait donc tous les écrits qu'on a survolés là en 3 minutes, qui forment notre Ancien Testament. Mais ils ont fait mariner tout ça, ils ont aussi rajouté tout ce qui leur semblait bon de rajouter, ce qu'on appelle la tradition. Il était en train de compiler dans la Mishnah, qui fait partie du Talmud aujourd'hui, mais c'était une tradition plutôt orale, du coup. Okay, et alors, la crème de ces religieux, c'était les pharisiens. Les pharisiens, c'était les meilleurs des meilleurs. Je vous propose de s'arrêter sur un petit passage de la Bible. Ce matin, qui se trouve dans Matthieu 15, les premiers versets, je vais aller vite, hein. Essayez de suivre si jamais. Je pense que. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Je vous lis le texte. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent Donc les pharisiens arrivent et ils posent une question à Jésus qui est importante pour eux. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il leur parle là d'une tradition qu'ils avaient, okay, tradition orale et pas écrite. Et Jésus répond, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Il répond, pourquoi vous transgressez le texte et vous mettez la tradition en avant ? Il leur donne un exemple d'une autre tradition qu'ils avaient qui leur permettait de contourner un des commandements, des 10 commandements de la loi de Moïse. Et en disant, ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition rend le texte inutile. Il continue par une déclaration, Jésus, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé. Il cite le texte, il est proche du texte, Jésus. Ésaïe a bien profité sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Préceptes humains. Il va continuer son discours, Jésus, et on saute un petit peu, on arrive au verset 17. En rebondissant sur cette question, sa première question des pharisiens, ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart ? Je ne vois pas de dessin. Ok ? Leur tradition était de se laver les mains absolument avant de manger pour être pur. Bah, ce que vous mangez, ça va dans le ventre, et puis bah, le tube digestif, voilà, vous connaissez. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ça qui rend l'homme impur. Il était en train d'expliquer aux pharisiens qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le texte. La religion prend le texte à l'envers. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignages, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne rend pas l'homme impur. Jésus développe ses idées dans un autre texte, dans Matthieu 6, qui est assez connu. C'est un discours de Jésus, hein, il enseignait, et il commence par dire, voilà, alors attention, je ne vais surtout pas dire que la loi de Moïse n'est pas à suivre. Au contraire, la loi de Moïse est à suivre. Et je vais même plus loin, je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Même la crème de vos religieux, il faut que vous soyez meilleurs. Et il développe. Il donne des exemples comme ça de ce qu'ils avaient dans leur loi et dans leur tradition. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre », un des 10 commandements. Hein. « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement, etc. etc. » Celui qui dit « vaut rien » sera passible, en gros, de l'enfer. Ça, hein, c'est censé choquer quand même, non ? Non ? Non, ça va ? Ok. Petit schéma. Vous vous rappelez, la créature avait un but à son existence, une cible, remplir la terre des qualités de Dieu. Et tout de suite, eh ben, il a raté son but, le péché, comme une cible avec un point. En mathématiques, un point, c'est infiniment petit. Hein. Si on est un petit peu à côté, c'est raté. Le but est raté. Okay ? Et là, Jésus est en train d'expliquer ça. Voilà, le meurtre, dans votre loi, vous avez un cercle qui est la loi. Tout ce qui est au-delà, c'est hors la loi. C'était donc hors la loi des pharisiens, des juifs en général. Sauf que Jésus, il dit, moi, je vous dis, un manque d'amour, c'est rater le but. Voilà ce qu'est le péché. Et il continue comme ça. Il en donne plein des exemples. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, commet un adultère. L'adultère, hors la loi. Un seul regard d'envie, c'est déjà du péché. Donc ça, c'est des fais pas ci, fais pas ça dans la loi. Mais il y a aussi fais ci, fais ça. Donc il donne aussi des exemples de ce qu'il faut faire. La loi disait œil pour œil, dent pour dent, la fameuse rétribution. Hein. Si on me fait un truc, eh ben, je fais la même chose. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. Voilà ce que la loi permettait. Un amour calculé, œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus dit, voilà ce que c'est la cible, un amour dévoué qui se donne totalement. Un deuxième exemple. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Un amour conditionnel, aimer ceux qui nous aiment, ça va, ça se fait. Aimer ceux qui nous haïssent, alors ça, pourtant, c'est la cible. Un amour inconditionnel. Ok ? Vous avez saisi un peu les... C'est vraiment un nouvel éclairage que Jésus a apporté. La religion prend le texte à l'envers. Il finit, Jésus, cette partie de discours dans Matthieu 6, par cette phrase, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Voilà. Voilà le sens qu'il a donné à la loi de Moïse, des petites boules bleues. Le sens pédagogique, en fait, qui est donné à la loi. Et il va réveiller les consciences de ces religieux de l'époque en leur montrant qu'ils sont dans un état de faillite spirituelle et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Au bout du bout, ça ne marchera pas. Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'une solution. Il a dû les amener là. Il a dû les amener au bout du bout. Et donc, ce qui rend l'homme impur, c'est son cœur. Hein, d'accord ? Par rapport à ce qu'il mange, ce qu'il va au WC, etc. Ok ? On fait le lien. C'est ce qui rend l'homme impur, c'est le cœur. Et donc, c'est quoi la solution ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui rend l'homme pur ? Un de ces pharisiens va voir une nuit, hein, en cachette, parce que ce n'était pas bien vu. On va voir Jésus et lui demande justement, comment ça fonctionne ? Si tu es le Messie, dis-moi comment ça fonctionne, c'est quoi la solution ? Et Jésus lui dit, si un homme, c'est dans Jean 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, du coup, voilà, il demande, mais ouais, c'est quoi naître de nouveau ? Continue, explique. C'est quoi, je ne peux pas rentrer dans l'utérus et ressortir, ça ne marche pas. Donc, Jésus va expliquer. Et au verset 16, il dit ce verset connu, mais tellement dense, tellement profond, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La solution. Jésus va finir sur une croix, finir. Hein. Et il va expliquer que c'est la peine de l'homme qu'il porte lui-même sur la croix. Il paye le prix pour que l'homme puisse être accepté par Dieu. Cette relation tendue qui est racontée par la Bible entre un créateur et une créature trouve sa solution au niveau de cette croix. Le prix est payé. Et grâce à la croix, le cœur de celui qui croit, croyant, d'accord, il est vu comme pur devant Dieu. C'est bon, c'est fait. Voilà la solution, la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et tout le texte de cette Bible, Sola Scriptura, est organisé autour de cette croix. L'Ancien Testament regarde en avant, cette petite pancarte avec cette croix dessus. De petit à petit, ça se précise avec les prophètes et tout, le Messie, etc. On commence à comprendre et on regarde en avant cette croix. Jésus vient, il apporte la solution. Et le Nouveau Testament, après, regarde en arrière, contemple cette croix et la commente, l'explique, la verbalise. Notre petit survol continue, on retrouve notre petite créature avec ses boules bleues en état de faillite spirituelle. Okay ? Et c'est toujours cette pancarte. Et cette pancarte, maintenant, on a vu avec Jésus, elle trouve une explication. Cette croix, en fait, c'est là la charnière, c'est la clé, c'est là que le prix du châtiment est payé. Et au pied de cette croix, sur le dessin, il y a plein de petites croix qui permettent de remplir le vide dans le cœur de cette créature. Et comment le Nouveau Testament explique cette solution? Comment ça fonctionne? Il y a tout d'abord une appropriation de ce qui s'est passé. Celui qui croit, ce n'est pas juste une vérité comme ça, générale. La foi demande de croire, hein, on l'a vu avec Abraham, et d'avancer dans cette direction. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est en même temps de la pratique. L'appropriation que ce sacrifice est valable pour lui. Et alors à ce moment-là, eh ben, il est pardonné. Il reçoit ce qui lui manquait. Parce que le prix a été payé, on le voit sur la main du Créateur. Mais attention, ce n'est pas la seule notion que le Nouveau Testament explique. Il y a deux notions très importantes, c'est pardonner et changer. Parce que en même temps, dans cette petite croix, il y a la capacité pour la créature d'aimer, de vivre une relation d'amour et de refléter effectivement les qualités du Créateur. Et ça, c'est aussi hein, annoncé dans les prophètes et expliqué dans le Nouveau Testament. Pardonner et changer le Saint-Esprit, pour ceux qui veulent des termes un peu bibliques. Et la relation peut continuer sur une toute autre dimension, qui est encore en fait plus belle qu'au début, parce qu'il y a quelque chose qui lie le Créateur et la créature qui n'avait pas au début, cette cicatrice qui est là. Trois petites conclusions qui vont, je sais pas, peut-être porter la réflexion un peu plus loin. La tradition, tout d'abord, vous vous rappelez, on avait commencé avec ça, la tradition des pharisiens, en plus que les écrits. Sola scriptura, ça vient d'où? Il y a 500 ans, un moine était avec un marteau à la porte de son église, cloué à un papier avec 95 lignes. À l'époque, le christianisme en fait, hein, parce qu'il n'y avait que ça dans notre pays, dans notre région en tout cas, avait la Bible. Mais il y avait en plus le comment expliquer la Bible et le comment vivre la religion qui s'était mise en place. Et notamment, il y avait la notion de peine temporelle. C'est-à-dire que, effectivement, l'être humain était pardonné grâce à la croix, mais le mal que l'être humain fait, sa conséquence, c'est des peines. Et ces peines-là, eh ben, il faut les endurer quoi qu'il arrive, que ce soit sur cette terre, les peines temporelles, ou dans le purgatoire, dans l'au-delà, avant du coup d'accéder au paradis. Il fallait endurer les peines en proportion avec le mal qu'on a fait. Okay. Et pour pouvoir diminuer ces peines, il existait le système des indulgences qui était géré par l'Église. Du coup, c'est l'Église qui avait la responsabilité de gérer ces indulgences. C'était quoi en fait? C'est simplement un décret de l'Église qui dit, voilà, vous aurez 200 jours de moins de peine temporelle, par exemple. Okay. Et donc, petit à petit, forcément, on connaît l'être humain, ils en ont fait toute une économie, en fait, hein, carrément, il fallait les acheter pour payer ci ou ça, je passe les détails. Et c'est ça qui a réveillé les consciences, dont celle de Martin Luther, qui s'est posé la bonne question. Que dit le texte? Que dit le texte? Le texte dit que Christ a porté notre punition, la peine temporelle. D'ailleurs, je rebondis sur la prière d'Eri tout à l'heure. Même dans les psaumes, ça en parle, que la peine est portée. C'est fait. Et voilà, petite réflexion pour nous aujourd'hui. Vous savez, c'est une utopie, je pense, en tant qu'être humain, de se dire qu'on n'a pas de tradition. On a tous, on aura toujours. Surtout quand on vit en communauté, on a besoin de se donner des règles pour fonctionner ensemble, en fait. Et donc on en a toujours. Je pense que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est à partir de quand et en quoi notre tradition va à l'encontre du texte, freine le texte, freine l'évangile. Et là, j'ai pensé à notre vie d'église. Ça fait 4 ans maintenant qu'on fait partie de l'église avec Jo. Et c'est un moment charnière dans l'église où voilà, on a notre groupe d'anciens qui est en train de passer la main à la relève. Et on est face à à un avenir, face à des choix. Et on a des traditions, on a forcément des traditions. Mais j'ai vu en 4 ans qu'on avait déjà ce réflexe de chercher dans le texte, de confronter les traditions au texte. Et je veux juste nous encourager pour les années qui viennent à continuer de faire ça. En quoi est-ce que nos traditions freinent l'évangile ? Que dit le texte ? Continuez de faire ça. Deuxième petite conclusion par rapport à la religion. Hein, vous rappelez cette cible avec ces points, que la religion prend le texte à l'envers. Dans la religion, c'est la créature qui cherche à mériter l'amour du Créateur. La créature cherche aussi à devenir meilleure. Mais que dit le texte ? C'est le Créateur qui aime la créature grâce à la croix. C'est dans ce sens-là. Pardonner, donc, et puis changer le Créateur rend la créature meilleure. Et là, c'est pour nous, chacun personnellement, chrétiens, comment est-ce qu'on fonctionne dans notre relation avec Dieu ? Dans quel sens est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va prendre le sens du texte, où c'est le Créateur qui agit et qui a déjà tout fait, qui nous a aussi changé ? Ou est-ce que c'est le sens humain, justement, on va essayer de mériter, hein, je me connais bien, j'ai ça dans ma chair, quoi. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà, réflexion, essayez de vous rappeler cette cible et ce qu'est le péché. Et puis pour finir, la solution. La solution vient du texte incarné. On a vu que la solution était l'âme du texte, le sens du texte. Jésus-Christ porte la punition de la créature, et la créature qui croit par la foi est pardonnée et changée. La solution est dans le texte seul, sola scriptura. Et ça va même plus loin, le texte est là pour parler de la solution. Pas pour débattre sur, la condition de la femme, ou, hein, je sors exprès des thèmes qui sont sensibles. Le texte est là pour nous parler de la solution de Jésus-Christ, de la croix, avant tout. Et Jésus-Christ lui-même s'est inscrit dans ce qui a été écrit avant lui, pour dire qu'il était dans la continuité. Le texte est là pour révéler la solution. Et la solution est dans le texte seul, c'est-à-dire sans parler de la religion, sans parler de la tradition. Petite réflexion au filtre de sola scriptura, est-ce que je crois ou pas ? Peut-être vous êtes venu ce matin, vous le découvrez un petit peu et vous entendez pour la première fois ce truc un peu latin là, sola scriptura, bizarre. J'espère que vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'une approche objective de la Bible va vous présenter un créateur, une créature, une histoire d'amour entre les deux, et l'Évangile. Le Créateur qui paye le prix pour que la relation d'amour puisse perdurer, se perpétuer. Et ça, c'est sans parler de religion, sans parler de tradition quelconque. Et si vous ne croyez pas, vous êtes face à un mur, ou face à des arguments qui vous... Je sais pas, qui vous interdisent de croire personnellement. Posez-vous juste la question, est-ce que ces arguments sont vis-à-vis d'une religion ou d'une tradition ? Si oui, eh ben faites votre réforme, clouez vos thèses, sola scriptura. Je m'arrête là et je finis par un peu de pub. On va organiser, c'est dans la continuité, hein, donc je me permets, on va organiser ce que vous avez vu là, les petits dessins, tout ça, fait partie d'un survol de la Bible. On aura la première séance lundi 30 septembre, et ensuite tous les lundis qui suivent, donc octobre, merci. Tous les lundis qui suivent, en 4 séances, okay, 4 épisodes, on fait le survol de la Bible. Et on va l'aborder de cette manière-là. On va prendre du recul, on va voir ce que la Bible dit, raconte, sur cette relation entre le Créateur et la créature. C'est ouvert à tous, chrétiens, pas chrétiens, autres. et vous êtes tous les bienvenus. Voilà.